J'ai bien aimé quand on a appris le chant au début, c'était intéressant de chanter un chant, on n'avait pas les mêmes paroles. Ça vous a fait quoi? Oui, ça fait bizarre, hein? On est en train de se dire, est-ce qu'on écoute nos sœurs qui chantent ou est-ce qu'on lit ce qu'il y a là? Et il faut choisir. J'ai l'impression qu'on ne pouvait pas tellement être entre deux. Soit on décidait, d'abord j'ai essayé de lire les paroles, et je me suis dit non, ça ne va pas, c'est trop différent de ce que vous chantiez. Après j'ai fermé les yeux, j'ai écouté, puis ça allait mieux chanter, on vous suivait plutôt à l'audio. Et je pense qu'à Pentecôte, il y a eu quelque chose d'un peu spécial qui s'est passé. On viendra tout à l'heure, on va venir sur cet événement particulier de la Pentecôte. Des gens qui parlaient des langues différentes. Donc ça devait donner un espèce de brouhaha, un espèce de truc, personne, on a envie de dire personne ne comprenait rien, et les gens qui étaient là comprenaient dans leur propre langue. Donc les gens arrivaient au milieu de, chacun parlait, je n'ai pas toutes les langues, on s'imagine, allez, ils étaient peut-être 20, là, 30 dans cette pièce, chacun une autre langue peut-être, ou certains en avaient peut-être la même, et puis là-dedans, des visiteurs arrivaient à reconnaître leur voix, leur langue, et à comprendre ce qu'ils parlaient. Donc ça, c'est quelque chose de surnaturel. J'ai l'impression, nous, limités avec comprendre une voix, une langue, après en comprendre plusieurs, et puis comprendre ça en parallèle, hein, il faut un peu faire le tri, et c'est humainement, j'ai envie de dire, c'est pas possible ou très très difficile, mais ça s'est passé à Pentecôte. Donc c'est un jour particulier, la Pentecôte, c'est un jour un peu le départ de la mission. Hein, Jésus, il y a une semaine, il est monté, il a donné la mission à ses disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et Pentecôte, pour moi, c'est un peu le pan, le coup de feu, et c'est parti. Mais c'est parti de manière assez particulière. Et c'est ce qui est donné l'Église après, hein, l'Église qui existe depuis plus de 2000 ans, qui est toujours là aujourd'hui avec Jésus à la tête, hein, ce corps dont Jésus est la tête, comme il est dit dans les épîtres de Paul. Je m'adresse à Pierre, j'y apprends rien, que l'équivalent juif est la fête des semaines, Shavuot. Shavuot est une. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fête de Shavuot cette année s'est terminée hier. Vous le saviez, je pense aussi. Donc la fête des sept, qui a lieu 7 semaines après Pâques et qui a pour but, la fête juive, de rappeler le don de la Torah. Le don de la Torah sur le mont Sinaï, il se rappelle ça, mais il fête aussi les prémices des récoltes. Et je trouve intéressant, la Pentecôte, c'est la Torah, c'est la parole de Dieu faite chair en Jésus, le Saint-Esprit qui est envoyé et les prémices des récoltes. C'est comme si à Pentecôte, on commençait d'aller récolter tous ces fruits que Dieu préparait. Donc, et comme cette année, on est à la suite, et j'ai envie de dire aussi que nous célébrerons aussi ça à la suite du peuple juif, qui a fêté hier, qui s'est terminée hier, la fête de Shavuot. Pour ce message, je vais me concentrer un peu sur un aspect particulier de Pentecôte, c'est le fait qu'il soit souffle ou qu'il soit vent, qui peut s'accompagner de bruit, et voir un peu qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, du bruit, du vent, du souffle. Et ce qui a été le déclencheur du choix de ce thème, c'est un article que j'ai lu récemment dans La Croix. Vous connaissez La Croix, c'est une agence de presse française, catholique, et je trouve toujours qu'ils font. Alors, ils ne parlent pas que de religion, ils parlent de toute l'actu, mais avec un regard, je dirais, chrétien derrière. Et il y avait un article qui s'appelait Le souffle de la Bible, du vent à l'esprit. Alors, ça, c'est le thème. Je n'ai pas repris cet article pour le message, mais je me suis dit, OK, c'est un thème intéressant, et je vais parler sur ça. On va lire deux passages. Le premier, c'est dans les Actes, c'est le. Un extrait du récit de la Pentecôte, et ensuite nous lirons aussi un passage dans l'Évangile de Jean. Est-ce qu'on peut mettre le PowerPoint? Voilà. Alors on va lire ensemble, vous pouvez aussi suivre à l'écran ou sur vos tablettes ou dans vos Bibles, Acte 2, les versets 1 à 4. Acte 2, les versets 1 à 4. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qu'est-ce qui nous dit ce texte ? L'effusion, on parle d'effusion du Saint-Esprit, a rempli des disciples, mais ça a été précédé d'un bruit semblable au bruit provoqué par un vent violent. Un vent violent, c'est en général, ça peut aller jusqu'à une tempête, ça peut être juste une tornade, et c'est peut-être aussi le genre de vent que les disciples avaient l'habitude d'entendre et d'affronter sur le lac. Il y avait parfois, on a des passages dans les évangiles où Jésus a calmé le vent. Donc tout à coup, ils ont entendu un bruit comme un vent. Un bruit comme un vent. Donc un phénomène assez surnaturel. Du vent, du bruit, mais pas de vent. Donc c'est comme un vent. Donc manifestement, ça ne soufflait pas, mais ça faisait du bruit. Donc ça a été surprenant. Peut-être aussi un peu inquiétant, hein, quand on entend le vent violent, ça peut causer des dégâts. Ils ont peut-être dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Les disciples réunis, ils attendaient quelque chose. Jésus leur a dit, ne quittez pas, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Mais ils ne savaient pas de quelle manière ça allait se passer. On parlait tout à l'heure en priant, comment les disciples s'imaginaient, pendant une semaine, on estime entre l'ascension et pendant une semaine, ils s'imaginaient comment ça allait se passer, ce Saint-Esprit promis. Alors peut-être qu'ils s'imaginaient de nouveau une nuée qui allait arriver, hein, comme le peuple d'Israël, parce qu'ils avaient entendu parler, la présence de Dieu qui accompagnait le peuple d'Israël. On le lisait dans la Torah, ils s'imaginaient peut-être ça. Hein, ils s'imaginaient peut-être un phénomène, quelque chose de spécial, mais ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Le mot ici traduit par vent, hein, donc ce vent, ce bruit semblable à un vent violent, c'est un mot grec, pnoé, n'est pas celui qui est traduit maintes fois par esprit ou souffle dans le Nouveau Testament. Vous avez peut-être déjà entendu parler du pneuma, ça c'est typiquement le terme pneuma, c'est l'Esprit Saint qui est traduit dans le Nouveau Testament. Ici, ce n'est pas pneuma, c'est un autre mot qui est utilisé que deux fois. Dans ce passage, donc traduit par vent, et aussi dans un autre passage, dans Actes 17, 25, où il est écrit « Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui, donc il parle ici du Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. » Donc ces deux mots, pneo, pneuma, sont très proches par leur origine, mais ils n'ont pas la même signification et pas le même usage. Bien sûr, ils ont en commun que c'est quelque chose de, aussi bien le vent que l'Esprit de Dieu, quelque chose d'invisible, mais les nuances sont bien réelles. Le premier mot, quand on parle ici de vent, qui est bruit d'un vent, c'est vraiment quelque chose de concret, c'est la respiration, c'est le souffle du vent, quelque chose de physique, quelque chose de, qu'on arrive aussi à comprendre, c'est connu, c'est naturel, c'est vital, c'est concret. Par contre, le mot pneuma, on parle d'esprit, de souffle, de vent, mais ça a une signification beaucoup plus large et surtout beaucoup plus insaisissable et souvent spirituelle, bien sûr. Donc l'Esprit Saint n'est pas le vent ici qui peut faire du bruit, ni l'air qu'on respire. Les deux proviennent du Dieu créateur du ciel et de la terre, mais ils ne sont pas les deux dieux. Ils sont pas, ce pnoé n'est pas le souffle de Dieu, le pneuma, l'esprit. Et cette distinction, vous allez me dire, elle est faible, c'est les deux un peu la même chose, c'est subtil, et en même temps, je trouve que c'est fondamental. Il paraît important de souligner, parce que ne pas confondre le pneuma, hein, dont l'origine c'est Dieu, son esprit, de ce qu'il a créé, le vent, le souffle, la respiration. Parfois, on parle de spiritualité aujourd'hui, et des fois, c'est où la limite entre la spiritualité chrétienne, une spiritualité générale, mais je pense qu'une des différences, c'est là. Il y a le pnoé, il y a le vent, il y a le de concret, et il y a le souffle de Dieu. Dieu ne nous demande jamais d'adorer le vent, ou d'adorer le fait qu'on soit un être qui respire. Wow, je suis un être qui respire, c'est génial, ma respiration. Non, notre adoration, elle est vers Dieu. Il nous donne le souffle, donc il nous donne la vie. Par contre, cette image, elle est parlante. Hein, donc, ce vent qui remplit tout l'espace où ils se trouvent, hein, dans leur maison, où ils étaient réunis, comme ce vent qui remplit toute la pièce, le Saint-Esprit a pris toute la place dans le cœur des disciples présents, sans faire d'exception de personne. Hein. Il est dit que des langues, ayant l'apparence d'une flamme de feu, se posent sur chacun. Ni de traitement différencié dans les fusions, manifestement pas. Ils étaient tous remplis. Ils n'étaient pas tous quelques-uns remplis, certains un petit peu, et d'autres, bah lui était un peu plus rempli que l'autre. Ils étaient tous remplis. Hein, c'est plein quand ça déborde. Donc c'était comme un remplissage de tous, complet, jusqu'à ce que ça déborde. Et le résultat, ben, il est connu. Hein, le verset 4, ils se mirent à parler d'autres langues, donc d'autres langues que celles qu'ils parlaient, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc on voit ici l'Esprit qui a agi librement, mais aussi spécifiquement, donnant à chacun une autre langue comme il le voulait. Et la suite, hein, vous la connaissez aussi certainement, le bruit semblable à un vent impétueux devient alors un nouveau bruit qui déborde de leur maison, qui attire la foule stupéfaite, il est dit, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue des merveilles de Dieu. Donc on a des réactions aussi bien de l'admiration, waouh, mais aussi du mépris, de la moquerie. Et quand je me mettais à la place de ces gens, je me suis dit, c'est typiquement humain ces réactions, devant un phénomène si unique et impactant. Imaginez-vous des gens qui parlent des langues qu'ils n'ont pas apprises, des pêcheurs certains, qui parlent leur langue, bien en principe, peut-être même plus ou moins bien leur langue. Tout à coup, ils parlent une autre langue, des langues qu'ils n'ont pas apprises. Dans des langues de personnes qui sont venues du monde entier, avec ce point commun qu'ils louaient Dieu, qu'ils racontaient les merveilles de Dieu. On a vu dans l'avant-dernière vidéo, hein, des plus 100 jours pour développer la culture de l'honneur, du naturellement surnaturel. C'est une des logiques du royaume de Dieu. Et on voit ici cette imbrication, j'ai envie de dire, entre naturel et surnaturel. On pourrait aussi dire entre connu, hein, naturel, explicable, et inconnu, surnaturel, inexplicable. Alors le premier point, c'est le vent. Alors je pense qu'il était connu, le vent. Hein, des navigateurs, ils savent que c'est nécessaire pour un bateau. À l'époque, il n'y avait pas encore de moteur, ou je ne pense pas, c'était des bateaux à voile. Le vent, quelque chose de nécessaire et de vital. Le bruit du vent, ben c'était connu le bruit du vent. Par contre, un bruit de vent sans vent, ça c'était déjà un peu plus difficile, inconnu, certainement surnaturel. En principe, quand on entend le bruit du vent, il y a le vent qui est là, derrière, qui l'accompagne. L'Esprit, je pense qu'il était connu, l'Esprit de Dieu. L'Ancien Testament, il en parle, hein, dès le début de la Genèse. Là, la traduction, c'est le fameux « ruach » en hébreu. Jésus en a aussi parlé à maintes reprises de l'Esprit. Et le dernier point, c'est la manifestation de l'Esprit qui vient habiter, littéralement remplir les humains. Et ça, je pense, c'était inconnu. C'était surnaturel et certainement aussi nouveau. Jusque-là, l'Esprit avait quelque chose de distant d'eux. C'était la présence de Dieu, voilà, des manifestations, l'Esprit qui oignit certaines personnes, mais tout à coup, c'est eux, personnellement, sans distinction, tous sont remplis et ça déborde. Et l'œuvre du Saint-Esprit, hein, qui a eu lieu à Pentecôte, encore aujourd'hui, je le vois comme ça, c'est de connecter le naturel, notre nature humaine, avec les trois dimensions qui limitent l'homme, hein, ces trois dimensions, on est limité finalement à l'espace, hein, le lieu où on est, où on est réuni, la matière, notre corps, le temps, c'est un moment précis où c'est venu, on est limité là-dedans, et l'Esprit Saint, il vient connecter ces limites qu'on a avec le spirituel, avec la nature divine, avec le surnaturel. Et c'est ça qui est mystérieux d'un côté et ce qui est en même temps extraordinaire. On a parfois tendance un peu à séparer, il y a le spirituel et maintenant on est humain. C'est sûr, l'humain est déchu, l'humain est pécheur, mais on est pardonné. Et le Saint-Esprit fait une œuvre en nous pour nous transformer, pour devenir de plus en plus naturellement surnaturel. Je ne sais pas si vous l'avez dans vos groupes, ça vous parlait ce terme, naturellement surnaturel. On peut le voir que le surnaturel devient naturel, ou le naturel, il n'est pas si naturel que ça. On peut le voir de différentes manières. Mais je pense que c'est les deux choses qui se mettent ensemble, un peu comme ici à Pentecôte. Quelque chose de connu des humains qui attendaient avec leurs limites, avec leur savoir, et tout à coup quelque chose d'extraordinaire les a rejoints et les a fait bouger. Et ce lien entre le naturel et le surnaturel, ça a un impact réel dans nos vies. Ça fait du bruit. Alors pas toujours fort, hein, c'est pas toujours des bruits extraordinaires comme à Pentecôte, mais ça a un impact réel dans nos vies. Mais pas seulement dans nos vies, mais aussi parmi les personnes qui nous entourent. Notre impact a une influence, notre vie a une influence. Alors ça, c'est de manière générale, hein. Quelqu'un, ben, on est relationnel, donc notre manière de vivre, notre manière d'être, notre manière de parler, notre manière de comporter, ben, on n'est pas neutre, on influence l'autre. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous donne ses fruits de l'Esprit, là, ça a un impact aussi. Et parfois, on se dit, ben, je fais un sourire à quelqu'un. Ben voilà, tout le monde fait des sourires. Là, on commence d'être déjà un peu dans le... Je ne sais pas comment dire, dans le... On minimise la puissance d'un sourire, déjà ça, mais surtout que Dieu nous fait ça. Si on sourit, soit que ce n'est pas juste pour y faire, mais parce qu'on l'aime, parce qu'il y a l'amour de Dieu au fond de nous. Et ça, c'est au-delà du sourire. C'est vraiment un sourire qui est, j'ai envie de dire, porté par le souffle de l'Esprit. Nous allons faire une deuxième lecture. Voilà, ça c'est un peu le... Voilà, c'était un peu le contexte de Pentecôte. Et il y a un autre passage que j'aimerais vous lire qui se trouve dans Jean 3, les versets 8. On parle aussi du souffle, on parle aussi de bruit. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Donc ce verset est pris d'une discussion hein, que Jésus a eue avec Nicodème, le chef des Juifs. Ils lui reconnaissent que Jésus a fait n'est possible que si Dieu est avec lui. Donc il a une ouverture. Et pour faire avancer dans ses réflexions, Jésus lui dit « À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème, et je pense que nous, si on avait été à sa place, on n'aurait pas été beaucoup mieux. Il arrive à peine à s'imaginer qu'on peut naître deux fois. Hein. Il dit, mais est-ce qu'on peut retourner dans le ventre de sa mère? Non, ce n'est pas possible. Donc, il a un problème avec cette expression de naître de nouveau. Mais Jésus lui dit que cette deuxième naissance ou cette nouvelle naissance n'est possible que grâce à l'œuvre du Saint-Esprit qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu, qu'elle ne peut pas être provoquée de manière humaine. Renaître humainement, ce n'est pas possible, mais c'est que l'Esprit Saint qui nous permet de renaître et d'entrer dans ce royaume de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus lui dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. » C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. J'ai pris quelques mots de ce verset et je me suis intéressé à leur signification, aussi grec, le mot utilisé en grec pour les traduire avec ces mots français. Et ici, le vent souffle. Alors, vous pensez que c'est quel le vent? C'est le pneuma ou le pnoé? Squeeze. Pneuma. Merci Frédéric, c'est le pneuma ici. Hein. Donc, ce n'est pas le même vent que celui qui a précédé la Pentecôte. C'est pas un bruit comme un vent violent. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas violent. Ça ne fait pas de dégâts au sens de nous détruire, de nous faire du mal, mais c'est spirituel. C'est le vent de l'Esprit. C'est l'Esprit qui agit selon la volonté de Dieu pour, j'ai envie de dire, au contraire. Ce n'est pas pour nous détruire, pour nous casser, pour être comme fait la tempête quand elle veut détruire tout ce qui se passe, mais pour nous réparer, nous restaurer, nous guérir, nous faire du bien. Car l'Esprit est envoyé par Dieu. L'Esprit provient de Dieu qui est bon, qui veut nous restaurer, nous guérir, nous transformer. Et le verbe souffler, hein, le vent souffle, hein, le verbe grec utilisé ici, il est plus proche de la signification du vent, hein, de cette air qui se déplace côté physique, que de l'esprit, du vent, du souffle de Dieu, du pneuma. Donc je vois quelque chose d'intéressant ici au travers de ces deux mots, signification que l'esprit de Dieu agit, il souffle de manière concrète dans sa création, dans ses créatures. L'Esprit de Dieu nous fait avancer, nous fait changer dans la direction donnée par le vent, voulue par Dieu. La direction du vent, c'est Dieu qui la donne. Nous, on est invités à entrer dans la direction prise par ce vent. Et on nous parle de bruit, hein, et tu en entends le bruit. Et ici, est-ce le bruit d'avant la Pentecôte ou celui qu'ont fait les disciples quand ils parlaient en diverses langues? Et bien ici, quand on voit aussi le mot grec, la réponse est claire. Il s'agit du bruit survenu après l'effusion du Saint-Esprit. C'est ce bruit-là, celui qu'ils ont fait quand ils ont parlé tous en langue, dans différentes langues, c'est ce bruit ici qui est traduit par bruit dans ce verset ici. Donc je vois ici que l'Esprit qui nous fait naître de nouveau, comme il a dit dans ce passage, c'est le même que celui qui a été déversé à la Pentecôte. Il n'y a pas plusieurs esprits, il n'y a qu'un seul esprit, celui qui nous fait naître et celui qui est déversé sur nous, comme il a été fait au jour de la Pentecôte. Mais je vois aussi qu'il y a des bruits qui effrayent, qui nous paralysent, qu'il y a des bruits qui sont la conséquence aussi. D'un côté, des bruits qui nous effraient, qui nous paralysent, et qu'il y a des bruits qui sont la conséquence de l'action de l'Esprit. Et à quel bruit voulons-nous être attentifs? À celui qui nous effraie, hein, par exemple, lorsqu'on entend parler de la Pentecôte, du parler en langue peut-être, ou de manifestation de l'Esprit, ou à celui qui n'est rien d'autre que la conséquence de l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. On a certes besoin de discernement, hein, pour faire la distinction entre des bruits provoqués par l'action de Dieu et d'autres bruits qui sont davantage du vent, provoqués par l'homme, voire d'origine diabolique parfois, mais restons ouverts et accueillants, un peu comme des enfants, à voir l'action de Dieu et à nous laisser surprendre par le bruit qu'elle provoque. En général, l'action de Dieu est discrète. Hein. Je pense des Pentecôtes comme il y a une là, c'est quand même assez exceptionnel. Mais elle peut être plus bruyante. Et surtout, je pense que Dieu agit parfois de manière plus bruyante, dans le sens plus exceptionnel, par des manifestations, par des guérisons, par des choses aussi fortes, surtout pour frapper l'attention. En tout cas, c'est ce qu'on voit aussi parmi les jeunes, des fois, qui ont besoin de voir la puissance de Dieu avant de voir le Dieu qui est bon, qui marche avec nous, plus discret. Ils voient la puissance de Dieu manifestée dans leur vie. Donc c'est plus, entre guillemets, plus bruyant, en tout cas plus manifeste. Ça se manifeste plus visiblement dans nos vies. Et après, il est dit, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Alors je demandais quel savoir, parce qu'il y a pas mal de significations différentes du mot savoir. Et ici, avec le mot grec, j'en déduis qu'il s'agit du savoir cognitif. Hein, c'est vraiment le savoir, hein, je comprends. J'ai la connaissance, je sais. Et je pense que quand l'Esprit Saint agit, notre savoir cognitif est mis au défi. Il n'est pas mis au stand-by, hein, qu'on se comprenne bien. Il est mis au défi. Certains disent qu'il ne faut plus réfléchir, il faut laisser Dieu. Non, je crois qu'il est mis un peu mis en stand-by pour permettre aussi. Il n'est pas mis au stand-by, mais il est mis au défi, pardon. On veut parfois vivre des choses, voir des choses, mais qui n'entrent pas dans nos cases, dans notre savoir, dans nos déductions, dans notre logique. On dit, c'est pas logique ça. Et pourtant, ça peut être le résultat de l'action du Saint-Esprit qui agit librement, soufflant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme il est dit. On ne comprend pas d'où il vient. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas été touchés par la grâce de Dieu, qui ne sont pas encore nés de nouveau, nés de l'Esprit, nous, on sait l'origine, en tout cas, du vent. Maintenant, D'où il vient précisément, on ne sait pas, mais on ne sait surtout pas où il va. Ce sont les plans de Dieu qui souvent nous dépassent la direction prise par Dieu. C'est souvent inexplicable aussi. Et après Jésus, en parlant de ça, il arrive à son enseignement. Il veut amener Nicodème finalement à lui faire comprendre quelque chose. Et il dit, c'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Alors ici, l'Esprit, c'est clairement le pneuma qui est traduit ici dans ce verset 8, qui peut être traduit, des fois c'est le vent, parfois le souffle, mais à chaque fois, c'est l'Esprit qui vient de Dieu. C'est même plus que l'Esprit qui vient de Dieu, c'est Dieu lui-même. Cette formulation, je la trouve un peu bizarre, c'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Comment mettre en parallèle un phénomène comme le vent avec une personne? Je me suis fait ma propre interprétation, vous en faites ce que vous voulez, de cette compréhension, de cette image et de ce que Jésus veut faire comprendre à Nicodème. Donc comme le vent souffle où il veut et que sa direction n'est pas prévisible, en tout cas pas précisément, peut-être aujourd'hui avec nos applications on sait dans quelle direction il va, mais à l'époque je pense que c'était encore plus difficile de comprendre. Mais le chrétien, la personne née de l'Esprit, est une personne qui agit selon ce que l'Esprit lui souffle à l'oreille ou lui met à cœur ou ce qu'il ressent de l'Esprit. Et j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose, une personne conduite par l'Esprit ne cherche pas à contrôler l'action de l'Esprit dans sa vie et au travers de sa vie pour déborder sur les autres, mais elle choisit d'être conduite par le vent de l'Esprit. Comment on peut mettre tout ça en pratique? Donc on a vu que l'Esprit Saint agit librement et souverainement. Le vent souffle comme il veut et où il veut. Ça ne signifie pas finalement qu'il agit sans notre accord. J'ai l'impression qu'au contraire, l'Esprit Saint agit librement, mais nous aussi on accueille librement, mais l'Esprit Saint ne va pas s'imposer. Au contraire, il veut qu'on découvre, que nous découvrions grâce aussi à l'œuvre de la croix et l'action du Saint-Esprit, que nous sommes libres. Libres d'accepter la nouvelle naissance, comme Nicodème, on ne sait pas s'il l'a fait, il n'était pas très loin, je pense, mais on n'a pas un verset qui dit clairement qu'à la fin, il a dit « Jésus, il avait une prière de conversion ou qu'il l'ait accepté. Mais libre, il a été libre, il a été mis devant cette liberté d'accepter cette invitation de Jésus, mais libre d'accepter son œuvre dans nos vies et libre d'agir. Car, et je cite encore un dernier verset, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la... Plus fort ? Liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est extraordinaire. Qui ne rêve pas d'être libre? Qui aime être libre? Moi, j'aime bien être libre. Tous, je crois. Quand on commence à nous mettre des contraintes, tu dois là. Qu'est-ce qu'on fait? Vous faites quoi quand on met des contraintes? Tu obéis. Suivez l'exemple de Suzy. On peut obéir, se soumettre, ouais. Mais on peut aussi refuser ou se rebeller et dire non, non, moi je fais comme je veux. Donc l'Esprit, nous sommes aussi libres d'agir. Là où est l'Esprit, là il y a la liberté. Et on est libre pour, j'ai mis quelques points là, pour agir. Ça peut être peut-être ouvrir une nouvelle porte, ouvrir quelque chose dans lequel on aimerait commencer quelque chose de nouveau. On le voit un petit peu, je crois, j'ai mis ici, c'est une ligne de départ ça en fait. Voilà. Il y a deux lignes, il y a écrit « Start » ici. C'est un peu la ligne de départ. C'est peut-être commencer quelque chose de nouveau. C'est peut-être faire des pas concrets pour devenir encore plus libre. C'est parfois commencer quelque chose. Des fois, le pas le plus dur, c'est de commencer. Je ne sais pas si ça vous fait des fois, vous avez des projets. Tout est clair dans la tête. De projets, vous avez déjà pas mal. Et vous ne le commencez pas. Ça vous arrive, ça ? On parle des fois de procrastiner, hein. Alors ça, c'est un peu de terme technique, mais on se dit, ok, tout ça, mais... Et quand on commence, ça roule. C'est des fois ce premier pas. C'est des fois ce start à faire qui peut, dans certains cas, être peut-être le pas le plus difficile. Tout le reste, on a envie de dire ça. Ça peut des fois couler parce que, voilà, souvent dans la tête, c'était déjà clair et puis il y a à le faire après, tout simplement. Mais l'Esprit nous pousse aussi à parler de la part de Dieu, comme Thierry a fait au début, bénir au nom de Jésus. Ça m'a béni quand tu as prié pour nous. On n'a pas l'habitude, je ne sais pas, c'est quelque chose, hein, je te demande de bénir, hein, c'est plutôt un peu quelque chose, on passe par, c'est aussi juste, mais de dire, ben, ça nous implique plus, j'ai l'impression, de dire je te bénis dans le nom de Jésus. Ce n'est pas que Dieu, tu fais ce que tu veux avec lui, mais moi j'ai envie que Dieu fasse le meilleur avec toi. Mais ça peut aussi être agir en encourageant, en transmettant des paroles de la part de Dieu. Ça peut aussi être agir en osant de nouvelles choses, en faisant confiance à celui qui nous a donné la mission de le faire connaître, d'agir, de vivre selon les réalités du royaume de Dieu. Ça peut aussi être cette liberté pour faire le bien. Et là, je citerai quelque chose qui vient de cet article. C'est une citation qui a été dans cet article tirée du pape François qui a dit « Une liberté qui fonde la vie morale chrétienne, car il ne s'agit pas de faire le bien ou le mal, mais de faire le bien librement. » De faire le bien librement. Toutes nos actions peuvent potentiellement faire du bruit, ou en tout cas, elles ont de l'impact, hein, qui est plus ou moins bruyant sur ceux qui nous entourent. Et c'est normal. Je crois que Dieu veut agir au travers de nous, comme on l'a vu aussi durant ces passés 200 jours en développant la culture de l'honneur. On a quand même été mis au défi par rapport à l'extérieur. On a tendance des fois à parler entre nous, mais de faire des actions d'ambassadeurs qui apportent quelque chose de la culture du royaume autour de nous, dans notre quotidien, dans notre lieu de travail, auprès de nos voisins, auprès de nos collègues, etc. Alors que nous rappelons aujourd'hui l'événement de la Pentecôte extraordinaire, accueillons aussi l'Esprit Saint, ce souffle de liberté, dans nos vies personnelles, mais aussi dans notre Église. Et agissons, parlons, osons, faisons le bien, librement. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen.